preuve de cela.
On va y aller. Merci.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Merci à vous d'avoir écouté Europe 1 et moi je vous dis à la semaine prochaine.
22h au carillon d'Europe 1, le journal du soir vous est présenté par Maëlle Laurent. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous.
Europe 1 nuit week-end. Maëlle Laurent.
Et on va revenir très largement dans ce journal sur la situation toujours aussi tendue au Proche-Orient. Israël a poursuivi aujourd'hui ses attaques contre des sites militaires et nucléaires iraniens. On rejoindra notre correspondant en Israël dès le début de cette édition. Une offensive israélienne en Iran qui vient directement percuter l'agenda diplomatique d'Emmanuel Macron. Le président français contraint de reporter la conférence qu'il voulait organiser en vue de reconnaître un État palestinien. Les conséquences diplomatiques pour le chef de l'État de la guerre Israël-Iran. On en parlera dans ce journal. Et puis juste après avec Martin Garagnon, porte-parole du groupe Ensemble pour la République. Il est l'invité d'Europe 1 du week-end. Et puis aux États-Unis, une élue locale de l'État du Minnesota et son mari tués aujourd'hui, un autre couple grièvement blessé. On fera le point avec notre correspondant aux États-Unis. L'armée israélienne frappera tous les sites et les cibles du régime des ayatollahs en Iran. Déclaration ce samedi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est félicité d'avoir déjà réussi à porter un véritable coup au programme nucléaire iranien. La correspondance de Frédéric Simon depuis Tel Aviv.
Alors incontestablement un coup a été porté, mais il est difficile à l'heure qu'il est d'en évaluer l'ampleur. On sait que plusieurs centrales nucléaires, notamment celles de Natanz et d'Isfahan, ont été sérieusement endommagées, voire partiellement détruites. Mais les installations d'enrichissement d'uranium sont pour la plupart profondément enfouies sous terre et il est peu probable que l'aviation israélienne dispose des armements nécessaires à les atteindre. Un point faible qu'Israël a cherché à compenser en tuant plusieurs scientifiques spécialisés. Leur mort pourrait porter un coup sévère aux avancées de l'Iran vers l'acquisition de la bombe nucléaire. Le haut commandement militaire iranien, quant à lui, était presque entièrement décapité, puisqu'on signale la mort du numéro 1 des gardiens de la révolution, de la plupart des généraux d'aviation et du chef d'état-major de l'armée. Un autre objectif central de l'offensive israélienne, l'arsenal de missiles balistiques dont dispose l'Iran. Il aurait été en partie détruit, même si Téhéran dispose encore de nombreux projectiles capables d'atteindre le territoire israélien.
Et Frédéric, côté israélien justement, de nouvelles alertes seraient en cours ce soir.
Alors on s'attend en Israël à ce que les tirs de missiles iraniens reprennent dans la soirée et au cours de la nuit. L'armée israélienne intensifie ses frappes en ce moment même, probablement pour perturber cette nouvelle contre-offensive iranienne. Depuis hier soir, l'Iran a lancé 200 missiles environ. Selon l'armée, plus de 90% ont été interceptés par la défense antiaérienne. Un dispositif efficace, mais qui peut être submergé lorsqu'il doit faire face à de telles quantités de projectiles. C'est ce qui s'est passé hier soir et ce matin, puisque plusieurs immeubles d'habitation ont été presque entièrement détruits dans la banlieue de Tel Aviv. Le bilan humain est lourd. 2 personnes tuées ce matin, une autre hier soir et des dizaines de blessés, dont certains dans un état grave.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. L'ambassadeur d'Israël en France, justement, Joshua Zarka, était tout à l'heure l'invité d'Europe 1 Soir Week-end et il n'a pas manqué de dénoncer la différence de stratégie entre l'offensive israélienne et la riposte iranienne. Il était au micro de Pascal de la Tour du Pin. On l'écoute.
Nous serons sûrs que l'Iran ne pourra pas reprendre son programme et ne pourra pas le remettre sur pied dans une courte période. Nous nous arrêterons, mais bien sûr, ça dépend aussi de la réaction de l'Iran. Parce que on a vu cette nuit, l'Iran nous a attaqué nos civils. Nous, ce que nous avions fait, c'était attaquer spécifiquement, nous avons décapité, disons, les militaires iraniens et nous avons attaqué les infrastructures militaires. Ce qu'ont fait les Iraniens, en revanche, c'est d'attaquer le plus de civils possible pour tuer le plus d'Israéliens possible. Ce qui va nous obliger a changé un peu de tactique. J'imagine que cette nuit va être une nuit difficile pour les Iraniens. Pas pour le peuple iranien, mais pour le régime iranien.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, invité tout à l'heure d'Europe 1 Soir Week-end. A noter également que le président iranien a opposé ce soir une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait invité son homologue à revenir rapidement à la table des négociations sur son programme nucléaire, alors que des pourparlers devraient avoir lieu demain à Oman avec les États-Unis. Mais l'Iran refuse formellement de négocier si Israël poursuit ses attaques. Et puis autre coup dur pour Emmanuel Macron sur le plan diplomatique. Le président avait prévu de se rendre mercredi à New York à l'ONU pour participer à une conférence consacrée à la reconnaissance de la Palestine, conférence qui devait être coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, mais elle n'aura finalement pas lieu au regard des événements entre Israël et l'Iran. Les conséquences diplomatiques pour le chef de l'État de cette guerre Israël-Iran, on y revient dans moins de 10 minutes avec Martin Garagnon, porte-parole du groupe Ensemble pour la République, il est l'invité d'Europe 1 New Weekend. Emmanuel Macron qui doit donc reporter son déplacement à New York, mais qui a maintenu en revanche son déplacement au Canada en début de semaine pour le sommet sommet du G7, mais aussi un déplacement au Groenland où il est attendu dès demain matin. Après le sommet des océans à Nice, le chef de l'État est bien décidé à tenter de marquer les esprits sur la fonte des glaciers. Jacques Serret, pour le président, l'enjeu est aussi de répondre à Donald Trump.
Oui, après avoir adressé ce message ces derniers jours à Nice...
Je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre.
Emmanuel Macron va s'afficher demain aux côtés du Premier ministre groenlandais et de la Première ministre danoise. Une manière on ne peut plus claire de soutenir la souveraineté de ce pays, du royaume du Danemark. Il s'agit de démontrer par sa présence la solidarité européenne, décrypte l'un de ses proches. Sa venue est une réaffirmation des principes de la Charte des Nations Unies, poursuit le même. Le président y rappellera que la France soutient l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières du Groenland. Un signal envoyé à Donald Trump qui convoite très sérieusement ce qui constitue la plus grande île du monde. Pour autant, l'Élysée indique qu'il ne faut pas y voir une dimension personnelle avec le locataire de la Maison-Blanche. Et pour cause, Emmanuel Macron retrouvera Donald Trump demain soir au Canada pour participer au sommet du G7.
Et en tout cas, si les États-Unis menacent de prendre possession du Groenland, s'il intéresse aussi la Chine, c'est aussi, Johan Madec, que ce vaste territoire dispose de ressources qui sont particulièrement convoitées.
Et oui, l'île dispose notamment d'un souterrain très riche en terres rares, pour l'instant presque non exploitées, et qui ont l'avantage pour les Occidentaux de se trouver en dehors de la sphère d'influence de la Chine, comme l'explique Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales.
Le Groenland possède 24 des 35 minerais rares qui sont nécessaires à l'évolution de la transition énergétique. Donc ces minerais rares sont tellement importants qu'ils suscitent l'intérêt naturellement des Américains, mais aussi des Chinois, qui souhaitent investir également.
Et le chercheur le souligne, il y a un autre facteur qui fait du Groenland un territoire très important pour les États-Unis et leurs concurrents, sa position.
Ce territoire est un passage obligé dans cette partie du globe pour aller aux États-Unis, notamment sur le plan commercial, mais également avec des navires militaires, des sous-marins militaires, notamment russes, qui peuvent porter des ogives nucléaires. C'est aussi sur le plan aérien un passage très important.
Et les États-Unis disposent d'ailleurs d'une base militaire active sur l'île depuis la Seconde Guerre mondiale, qui encore aujourd'hui est un maillon essentiel de leur bouclier antimissile. Enfin, Donald Trump table sur l'ouverture de nouvelles voies maritimes commerciales dans la région avec la fonte des glaces.
Johan Madec pour Europe 1. Aux États-Unis, une élue démocrate de l'État du Minnesota et son mari tués à leur domicile il y a quelques heures. Bonsoir Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Selon les premiers éléments de la police, ce couple aurait été délibérément visé.
Oui, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé un meurtre politique. Melissa Ortman, 55 ans, était élue et ancienne présidente de la Chambre des représentants de cet État du nord du pays. Elle et son mari ont été tués par balle alors qu'ils se trouvaient chez eux dans la localité de Brooklyn Park. Un autre élu démocrate, le sénateur John Hoffman et sa femme ont également été ciblés. Ils ont, eux, survécu à l'attaque. Le tireur est toujours activement recherché. Selon la police, il s'est présenté au domicile de ses victimes habillé en uniforme de policier. Il conduisait également un SUV qui ressemblait à un véhicule de police équipé d'un gyrophare. Le véhicule a été retrouvé. La police y a découvert une liste de noms de politiques et de fonctionnaires locaux, ceux qui corroborent la thèse de l'assassinat politique. Donald Trump a aussitôt dénoncé une attaque terrible et il a précisé que le FBI se joignait à l'enquête. Ce double meurtre intervient alors que Donald Trump s'apprête à assister à une grande parade militaire, la plus importante du pays depuis plus de 30 ans, un défilé organisé le jour même de ses 79 ans. Le président américain se serait inspiré du défilé des Champs-Élysées du 14 juillet, auquel il avait assisté en 2017.
Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1. Aux États-Unis, en Ukraine à présent, nouvel échange de prisonniers qui a eu lieu aujourd'hui entre Kiev et Moscou, le quatrième en une semaine, conformément aux accords qui ont été conclus entre les deux parties au début du mois à Istanbul. Sur le front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que l'avancée des troupes russes a été aujourd'hui arrêtée à Soumy, dans le nord-est du pays. Le président ukrainien qui espère par ailleurs que le conflit en cours entre l'Iran et Israël ne viendra pas à réduire l'aide occidentale à l'Ukraine, à un moment où Kiev réclame davantage de livraisons pour faire face aux frappes russes. À l'étranger, j'ai toujours l'inquiétude grandit autour des avions Boeing. Trois jours après le crash du Boeing 787 d'Air India, tuant au moins 279 personnes, on apprend dans le Daily Telegraph qu'un Boeing identique à celui du crash a été victime de panne en début d'année, Charles Bouchin.
Oui, il s'agit d'un avion de la flotte d'American Airlines. Ce Boeing 787 a été obligé d'atterrir en urgence à quatre reprises en moins d'un mois. Le 7 janvier dernier, juste après avoir décollé, l'appareil a dû vite revenir à Amsterdam suite à une perte de carburant au-dessus de la mer du Nord. D'autres incidents, quelques jours plus tard, ont suivi à Dublin, Barcelone et Zurich. Cet avion qui compte plus de 4000 vols en 8 ans souffrirait de problèmes avec ses volets d'ailes, élément essentiel lors du décollage. C'est d'ailleurs ce dysfonctionnement qui pourrait être lié au crash d'Air India ce jeudi. Pour Michel Polacco, spécialiste de l'aviation, rien n'indique en tout cas une défaillance habituelle des volets sur ce modèle.
Le Boeing 787 n'est pas réputé pour avoir des soucis particuliers avec ses volets. Si on les utilise mal, si on oublie de les utiliser ou si on les rétracte trop tôt, ça peut avoir des conséquences. Mais là, c'est une question d'action des opérateurs qui utilisent les avions, des pilotes en l'occurrence, et c'est pas une question de marque ou de modèle d'avion.
Et ces nouvelles informations viennent ternir un peu plus l'image de Boeing. Suite au crash en Inde, l'action du constructeur avait chuté de plus de 5% à la bourse de New York.
Merci à vous Charles Bouchain pour toutes ces précisions. Retour en France, dans le Nord, une personne a été tuée ce matin dans un camp de migrants situé près de Dunkerque. 5 autres personnes ont été blessées, dont un enfant. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'une centaine de migrants avaient été secourus dans la Manche entre jeudi et vendredi. Ils tentaient de gagner l'Angleterre à bord d'embarcations clandestines. En France, toujours, le début du marathon pour les candidats du baccalauréat général et technologique, Platon, Aristote ou encore Descartes. Il faut encore se préparer, continuer de réviser pour la fameuse épreuve de philo. L'écrit se déroule lundi, autant mettre toutes ses chances de son côté, comme pour ces deux élèves du lycée Blanche de Castille au Chesnay-Rocancourt dans les Yvelines, rencontrés pour Europe 1 par Laura Laplo.
Ça doit faire environ 20 lignes l'introduction.
Oui, c'est ça, bah, c'est une page.
Faut pas qu'on s'entraîne.
À l'approche du grand saut, ils ont encore le sourire. Antoine et Benjamin ont 17 ans et ce week-end, pas de fête, pas de grasse mat, c'est philo à plein régime.
Je pense que c'est important de réviser, on peut pas y aller comme ça, 1, 2, 3, let's go et ça marche, c'est pas de la magie.
Habitués aux bonnes notes, ils visent tous les deux la mention très bien. Alors ils peaufinent leurs fiches, s'interrogent sur les 17 notions au programme et ils ont tous les deux une préférence pour l'explication de texte.
C'est un exercice où déjà il y a moins besoin de travailler. Et aussi, la méthode compte beaucoup. Donc déjà, si on a une bonne méthode, ça nous permet d'assurer une bonne structure et donc une bonne note aussi.
Et s'il pouvait choisir la notion le jour de l'examen, il n'hésite pas une seconde.
La liberté et la vérité, un petit mix des deux, ça me plairait bien.
Moi, j'aimerais beaucoup tomber sur la science et la vérité aussi parce que c'est un thème qu'on a beaucoup abordé au début de l'année.
Confiant pour lundi, oui. Mais la vraie pression, elle est pour la suite. Les épreuves de spécialité maths et physique programmées mardi et mercredi.
Laura Laplo pour Europe 1. Laura Laplo pour Europe 1. Du sport à présent et de l'escrime. D'abord, ces deux succès français au championnat d'Europe à Gênes en Italie. Rémi Garrigue ce soir sur le toit de l'Europe en sabre. Et puis Eva Lacheray qui a été sacrée à 25 ans seulement en fleuret. C'est son tout premier titre chez les seniors. On l'écoute.
Au fur et à mesure de la journée, je suis devenue plus forte. Et franchement, Guillaume, l'entraîneur, le coach a été top. Il m'a beaucoup écouté. Il a beaucoup écouté mon entraîneur de club, Jean-Luc Petitot aussi, qui était là. Franchement, sans eux, je me serais peut-être perdue. Et au final, je me suis retrouvée et je me retrouve championne d'Europe. Donc, je suis trop contente.
Et pour la suite ?
Eva Lacheray, championne d'Europe ce soir, en fleuret sacré au championnat d'Europe de Gênes. En Italie, un mot de Formule 1 également. Après 3 courses européennes, la F1 retrouve le continent nord-américain pour disputer le Grand Prix du Canada, 10e manche de la saison, vainqueur à Monaco et à Barcelone. McLaren fait figure de favori, mais attention, Red Bull, Ferrari ou encore Mercedes comptent bien contrarier les leaders du championnat des constructeurs. Sur une piste particulièrement propice au grand spectacle, les qualifications viennent tout juste de démarrer. Elles sont à suivre en direct sur Canal+. Et puis la météo pour cette nuit et demain. Je vous dis bonsoir Anthony Kaczmarek.
Bonsoir Maëlle, bonsoir Valérie et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Grande prudence encore sur le front des orages dans les 18 départements qui sont placés en vigilance orange.
Oui, et on craint sous ces orages de la grêle, de fortes pluies et de fortes rafales de vent jusqu'à demain matin 6h entre le Massif central, l'Auvergne, la région lyonnaise, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Demain, en début de journée, il y aura encore quelques orages sur la Lorraine et puis d'autres se déclencheront entre Poitou-Charentes, le centre-val de Loire, mais aussi sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, ces orages se décaleront sur le Grand Est à nouveau, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront parfois violents, cette fois plutôt vers les Cévennes, la vallée du Rhône et la plaine d'Alsace. Partout ailleurs, ce sera beaucoup plus calme, avec souvent une alternance entre nuages et éclaircies. Éclaircies de plus en plus belles sur le quart nord-ouest dans l'après-midi et peut-être un tout petit risque d'averse en fin de journée sur l'Île-de-France. Les températures contrastées, ce sera beaucoup plus respirable dans le nord-ouest, encore lourd sous les orages et très chaud près de la Méditerranée. Demain après-midi, 18 seulement à Cherbourg, 21 à Biarritz, 23 à Paris, à Lille et à Bordeaux, 26 à Strasbourg, mais encore 31 à Grenoble, 33 degrés à Marseille et 34 à Montpellier et à Bastia.
Merci, à demain Anthony Kazmarek. 22h15 dans quelques secondes sur Europe 1, dans un quart d'heure, le top départ de votre libre antenne avec Valérie Darmon qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Rebonsoir Valérie.
Rebonsoir Maëlle.
Quel est le programme de cette soirée de libre antenne?
Alors déjà, un numéro de téléphone à composer dès maintenant jusqu'à 1h du matin, le 01 80 20 39 21. Je vous rappelle, chers auditeurs, que le numéro n'est pas surtaxé. On va parler ce soir, entre autres, hein, parce que bien sûr, vos témoignages vont venir se rajouter à ceux que nous avons déjà calés depuis tout à l'heure avec Amandine et avec Nicolas. Alors, nous allons parler différences culturelles entre le Canada et la France. On va parler de maltraitance en EHPAD, de garde exclusive et les problèmes que ça pose à un papa relativement malheureux, des mamans solo et de leur situation difficile, et puis des prescriptions abusives.
Eh bien, rendez-vous dans un quart d'heure, tout pile à 22h30, juste après l'interview d'Europe 1 Nuit Weekend.
Europe 1 Nuit Weekend. Maëlle Laurent.
Bonsoir Martin Garagnon.
Bonsoir et merci pour votre invitation.
Merci à vous d'avoir accepté la nôtre. Invité d'Europe 1 Soir Week-end, invité Nuit Week-end. Vous êtes le porte-parole d'Ensemble pour la République, la majorité présidentielle donc. On va revenir avec vous sur cette situation tendue, explosive au Proche-Orient depuis 48 heures. Ces attaques lancées par Israël en direction d'installations nucléaires et militaires en Iran. La riposte de Téhéran hier soir et peut-être à nouveau ce soir. Ses implications, ses conséquences en Europe, en France, sur le plan de la sécurité et puis sur le plan de la diplomatie, en espérant que vous allez nous aider à décrypter, à disséquer la position française dans ce conflit, les propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui hier n'a donc ni condamné ni apporté son soutien explicite à l'initiative israélienne en Iran et qui arrive donc même au Proche-Orient à faire du en même temps.
Alors, j'ai une autre version de l'intervention d'Emmanuel Macron que j'ai trouvé pour le coup extrêmement claire, qui a rappelé dans un premier temps avec beaucoup de solennité la gravité d'une situation qu'on a peut-être du mal à évaluer depuis notre pays. Mais il y a un réel danger, un risque d'escalade et régionale et internationale. Il faut pas oublier que l'Iran, au-delà de ses capacités en construction d'un nucléaire militaire, a aussi des capacités balistiques qui sont extrêmement fortes, qui ont été touchées par les raids de l'armée de l'air israélienne, mais qui sont toujours en état de nuire et régionalement et de manière plus longue portée. Et puis l'Iran, on l'a vécu en France dans notre chair, peut aussi agir par le biais de ses proxys et notamment par le financement de ses mouvements terroristes. On l'a vécu, je dis, dans notre chair, puisqu'en France, dans les années 80, on a été victime de ce terrorisme islamiste armé est mené idéologiquement par l'Iran, par le régime des Mollahs, qui est toujours ce régime qui est en place. À l'époque, c'était Ali Khamenei, et maintenant on a Ali Khamenei, mais la menace est la même. Donc c'était dans un premier temps utile de le rappeler, et vous parliez d'un en même temps, mais oui, c'est un en même temps qu'il faut assumer. C'est l'honneur, je trouve, de notre pays et l'honneur du président Macron que de toujours, 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 que ce soit sur Gaza, que ce soit sur l'Iran, le nucléaire iranien, que ce soit sur l'Ukraine, de vouloir se mettre autour d'une table des discussions et de faire jouer la diplomatie avant de faire jouer le feu des armes.
Sur Gaza, justement, je reprends vos termes. Vous aviez des termes, on ne peut plus clair. Vous disiez il y a quelques semaines, on ne négocie pas avec des gens dont la raison d'être est de vous tuer.
Bien sûr.
Emmanuel Macron ne dit pas exactement la même chose avec autant de clarté et de simplicité que vous le faites sur le sujet iranien. Peut-être que vous ne devriez pas simplement être porte-parole du groupe Ensemble pour la République, il devrait vous recruter comme porte-parole à l'Élysée.
Je pense que le président n'a aucunement besoin d'un porte-parole et qu'il a une expression extrêmement claire et responsable parce que il n'a pas bougé d'un iota le fond de sa pensée. Ce sont les circonstances qui évoluent et nécessairement ça implique aussi des évolutions dans notre approche du problème, mais la position de la France, elle a toujours été la même. En l'occurrence, je vous parlais de Gaza et de la Palestine, c'est la solution politique à deux États. C'est la position de la France, celle d'Emmanuel Macron, celle de ses prédécesseurs et celle qui devra prévaloir encore demain. Mais en revanche, le contexte évolue. Au lendemain des massacres terroristes du 7 octobre, vous aviez des gens, notamment en France, des responsables politiques, qui avait du mal à condamner ces actes-là, qui avait du mal à dire que le Hamas, oui, c'était un mouvement terroriste et qu'il fallait le combattre. Nous, on l'a fait de manière extrêmement claire. Et on a aussi dit qu'Israël avait évidemment, bien entendu, toujours le droit de se défendre, de se protéger. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. En revanche, ce qui a changé, c'est l'atteinte aux populations civiles de Gaza, qui est inacceptable. Et Emmanuel Macron l'a dit très clairement. Pourquoi c'est inacceptable? C'est une faute morale, évidemment. je pense que personne ne pourra dire le contraire. C'est une faute de droit, puisque c'est condamné par le droit international, et c'est même une faute tactique de la part du gouvernement israélien à l'heure actuelle, puisque c'est construire les massacres de demain. La seule voie pour éviter que cette situation perdure encore des décennies et des décennies, c'est d'arriver à ce que l'intégration d'Israël à l'échelon régional soit faite. Et ça passe par la reconnaissance d'Israël par les États arabes voisins, ça c'est les accords d'Abraham d'il y a quelques années, et évidemment par un État palestinien.
On va en reparler, mais en tout cas, sur l'Iran, quand Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, dit ce soir que dans sa campagne militaire contre l'Iran, Israël a le soutien manifeste des États-Unis et de nombreux autres pays, vous affirmez que la France fait partie de ces nombreux autres pays.
Emmanuel Macron l'a dit, je crois, en des termes extrêmement clairs hier, effectivement, nous ne participerons pas à une offensive sur le territoire iranien, ça n'est absolument pas le propos qu'il faut que l'on tienne. On n'est pas en guerre contre l'Iran et encore moins contre le peuple iranien qui est, je le rappelle, une des premières victimes aussi du régime des Mollahs, hein, qui a besoin aussi qu'on l'aide aussi à se débarrasser de cette tyrannie du quotidien. Le régime des Mollahs, c'est quand même un régime qui pend des homosexuels, qui tue des femmes qui refusent le voile, qui emprisonne et condamne à mort des artistes, je parle mais notamment de ce rappeur iranien Toumaj, qui était condamné à mort il y a quelques mois. Enfin, il faut rappeler ce que c'est ce régime-là. Ce n'est pas une unité entre ses dirigeants, des gardiens de la révolution, et le peuple iranien, qui vit en plus dans une situation économique extrêmement grave. En revanche, on n'est pas en guerre contre l'Iran, on n'est pas en guerre contre le peuple iranien. En revanche, Emmanuel Macron a dit qu'évidemment, on apportera mes soutiens dans une capacité défensive à Israël si Israël devait être attaqué de manière extrêmement forte par l'Iran.
Tout en disant qu'Emmanuel Macron, qu'il ne partageait pas l'approche d'Israël et la nécessité d'une opération militaire. Mais on a connu mieux comme soutien.
Oui, enfin, on n'est pas les seuls. Le président Trump, je vous rappelle, demain, il devait y avoir un nouveau round de négociations sur le nucléaire iranien. Donc le président Trump, visiblement, a été averti par Netanyahou de l'imminence de cette attaque aérienne, hein, qui, une fois de plus, se comprend. Hein. Israël, nous, on réagit en tant que Français, mais pour Israël, il faut voir ce que c'est. C'est un petit État qui est enclavé et qui vit sous la menace de l'Iran, qui est un peu l'espèce de super leader de la région et qui n'a eu de cesse de dire depuis des décennies qu'Israël était un cancer qu'il fallait éradiquer. Quand vous avez ce type de voisin-là, vous n'avez pas vraiment envie d'être sous leur joug nucléaire. Donc il faut aussi se mettre à la place des Israéliens à ce niveau-là. Mais nous, on a toujours été pour se mettre autour de la table des négociations et Trump aussi, c'est pareil. Donc on va appuyer et je crois que le président Macron a appelé le président iranien, qui est plutôt un modèle dans le régime iranien aujourd'hui, pour l'enjoindre avec beaucoup de force à se remettre à la table des négociations sur le nucléaire.
Alors, on ne peut pas lui reprocher de parler à tout le monde, parce qu'il parle à tout le monde, Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il est encore écouté? Est-ce qu'il a encore une voix au Proche-Orient?
Alors, Emmanuel Macron, quand vous regardez un petit peu le paysage international, ça se passe en général entre Donald Trump, la Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine, et c'est à peu près tout. Emmanuel Macron est le seul à faire entendre une voix européenne et française sur le plan international. Je vous rappelle qu'il y avait ce sommet à New York qui était prévu dans 3 jours sur justement Gaza et la Palestine, qui est à l'initiative de la France et que la France devait co-présider avec l'Arabie Saoudite. Donc ça montre que la France, elle pèse encore. Mais votre question, elle pose effectivement la question du poids que l'Europe peut encore avoir dans le jeu des relations internationales. Et ça ne fait que renforcer...
celle d'Emmanuel Macron... Il y a eu quelques différends avec Benjamin Netanyahou. Vous rappelez les positions de la France qu'il a défendues.
Oui, qui étaient légitimes. C'est pas parce qu'on est alliés. Je veux dire, on a toujours été très clair sur notre position vis-à-vis d'Israël. Israël est un allié. Le peuple israélien est un peuple ami. C'est la base en fait de toute discussion. Mais entre alliés, vous pouvez aussi avoir des accords. Et c'est même le rôle d'un allié de vous dire quand on estime que vous allez trop loin ou que vous faites une erreur, y compris contre vos propres intérêts. Je pense qu'Emmanuel Macron, à ce titre-là, est un très bon ami d'Israël et ne perd pas de vue que l'objectif, c'est évidemment la sécurité et la sauvegarde du peuple israélien et de l'État d'Israël. Mais sur le poids qu'Emmanuel Macron peut avoir, ce qui compte, c'est le poids que la France et donc l'Europe pourraient avoir. Et donc, ça pose aussi la question de la souveraineté européenne. Je rappelle que depuis le départ de l'Angleterre de l'Europe, la France est la seule puissance nucléaire en Europe et qu'à ce titre, il y a évidemment un rôle que l'on doit jouer, peut-être encore plus que nos voisins européens, pour que l'Europe soit une voix qui porte sur les relations internationales et que l'Europe soit assise évidemment aux tables de discussion.
En tout cas, Emmanuel Macron a pris également des mesures ici en France. C'est en raison de risques d'importation spécifiques du conflit entre Israël et l'Iran.
Ben, vous avez vu déjà à quel point nos concitoyens français de confession juive sont la cible d'attaques, de menaces, d'intimidations, d'insultes, de diffamations, de tout ce que l'on veut. Je l'ai rappelé, hein, dans les années 80, on a eu des attentats qui venaient directement téléguidés depuis l'Iran. Et c'était notamment des juifs qui étaient visés, des Français juifs. C'était les attentats de la rue de Rennes, c'était les attentats de la rue des Rosiers. Donc, en responsabilité, évidemment, Emmanuel Macron a renforcé le dispositif de Sentinelle et a décidé de mettre aussi davantage de sécurité sur des lieux de confession juive pour protéger nos concitoyens. On a encore vu il y a quelques jours ce rabbin à Neuilly qui s'est fait agresser de tapis dessus. Enfin, c'est absolument inacceptable. Et une fois de plus, il faut aussi pointer du doigt la responsabilité de députés français de l'opposition, notamment d'extrême gauche, qui mettent de l'huile sur le feu parce qu'ils ont des visées électoralistes, mais en faisant ça, ils continuent à fracturer, à diviser notre pays, notre société.
Mais est-ce que vous avez connaissance de menaces spécifiques de la part d'intérêts iraniens en France ?
Bah, je ne suis pas dans le secret des dieux à ce niveau-là.
Encore.
Mais on n'a pas vraiment besoin, enfin, j'ai pas besoin d'être plus informé que ça pour savoir que l'Iran, on le voit bien déjà au niveau régional, c'est quand même eux qui finançaient le Hezbollah au Liban, c'est eux qui finançaient les Houthis au Yémen, c'est un peu leur proxy, donc ils tiraient un peu c'était un peu le marionnettiste qui, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a rappelé hier dans son intervention, hein, que l'Iran avait une responsabilité extrêmement lourde dans la déstabilisation de la région. Donc, ils ont des capacités de nuisance que l'on connaît, et ils ont évidemment, par le biais du terrorisme international, une capacité de se téléporter dans des pays occidentaux. C'est pour ça que je rappelais en introduction que ça peut nous paraître un peu loin tout ça, un peu comme l'Ukraine si vous voulez, mais c'est extrêmement grave. Il ne s'agit pas de faire peur aux Français, il s'agit juste de dire qu'il y a véritablement un enjeu de sécurité, y compris pour notre pays, y compris sur notre sol, qu'il ne faut pas qu'on perde de vue.
Enjeu de sécurité, enjeu pour l'économie également. Ça ne va pas faciliter l'équation économique du pays. Emmanuel Macron l'a rappelé hier dans son allocution.
Oui, alors les premières victimes de la situation économique de la région, c'est les Iraniens. Hein. Je veux dire, c'est eux qui subissent de plein fouet une crise économique incroyable avec une inflation galopante, des pouvoirs d'achat qui s'écroulent, etc. Nous, évidemment, en France, on a des enjeux. Le président de la République, dans son échange qu'il a eu aujourd'hui avec le président iranien, d'ailleurs, enjoint évidemment à ce que les intérêts français sur place ne soient plus pas atteints et touchés. Mais on le sait, malheureusement, lorsque vous avez des guerres qui se déclarent, on l'a vu avec l'Ukraine, on le voit assez souvent avec le Moyen-Orient et le Proche-Orient, ça a des conséquences, des répercussions. Je rappelle que le deuxième choc pétrolier en 79 est la conséquence de la révolution islamique, du départ du Shah d'Iran et de l'arrivée des ayatollahs en Iran. Donc, l'histoire nous l'a prouvé. On sait que ça va potentiellement être dur. Et si vous voulez, pour moi, ça ne fait qu'inciter davantage à ce que l'on réforme notre pays, à ce que l'on épure nos comptes publics et à ce qu'on porte des budgets qui soient forts et responsables.
Un dernier mot sur cette offensive d'Israël en Iran qui tombe peut-être assez mal pour Emmanuel Macron. Vous en parliez, elle vient percuter l'agenda diplomatique du président. Cette conférence qui devait être organisée la semaine prochaine à New York, où la France était sur le point de reconnaître l'État palestinien. Est-ce que vous imaginez que la date choisie par Benjamin Netanyahou puisse avoir le moindre lien avec la tenue de cette conférence ?
Non, je ne pense pas, parce que ce sont des opérations, là aussi je ne suis pas dans le secret des dieux, des services de renseignement israéliens, mais ce sont des opérations qui se montent pendant des mois et des mois, et on ne définit pas la date en fonction forcément d'un calendrier annexe. En revanche, effectivement, c'est une opération qui perturbe beaucoup de réunions, pas uniquement le sommet qui était prévu à New York sur la Palestine et Gaza, puisque j'en parlais tout à l'heure. Demain devait avoir lieu un nouveau round de négociations sur le nucléaire iranien. En revanche, il n'y avait pas, a priori, de reconnaissance prévue d'un État palestinien à New York, puisque Emmanuel Macron avait posé des conditions à cette reconnaissance. Et parmi ces conditions, il y avait une démilitarisation de la Palestine, il y avait le départ des responsables du Hamas, et il y avait évidemment la reconnaissance de l'État d'Israël et la garantie de sa sécurité. Donc ça fait beaucoup de conditions. Malheureusement, on ne les a pas encore pour le moment. J'espère qu'on y parviendra, parce que, une fois de plus, la position de la France est, à mon sens, la seule solution d'avenir dans la région. C'est une intégration régionale de tous les peuples, de tous les pays. Donc c'est une reconnaissance bilatérale d'un État israélien et d'un État palestinien.
Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron a déclaré hier que la dynamique créée par ce rendez-vous à l'ONU est absolument inarrêtable.
Oui, je pense, vous savez, à l'heure actuelle, dans le monde, il y a environ 150 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. C'est un État qui a été reconnu par de nombreux accords. Il y a plusieurs, malheureusement, qui ont échoué, mais il y a eu plusieurs pistes de règlement de ce conflit qui dure depuis des décennies désormais, hein, depuis le milieu du XXe siècle. Donc oui, je pense que c'est la voie de l'histoire. On ne peut pas, génération après génération, continuer à évacuer d'un revers de main un peuple qui est là, qui est légitime à vivre en paix. Les civils à Gaza, à l'heure actuelle, c'est ceux qui souffrent, mais qui sont aussi les victimes du Hamas d'ailleurs.
À certaines conditions, malgré tout, vous en parliez. Merci à vous Martin Garagnon, porte-parole du groupe Ensemble pour la République. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 Nuit Week-end. Je passe le témoin à Valérie Darmon, le début de la libre antenne que vous attendez tous. Je vous retrouve dans une demi-heure pour le flash de 23h.
Voilà, 23h, nouvelles informations sur l'antenne d'Europe 1 et tout de suite, la libre antenne.
Europe 1. La libre antenne.
Valérie Darmon.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Voici la citation de ce samedi soir. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Ces mots sont de Jean d'Ormesson. Amandine et Nicolas sont à mes côtés pour prendre vos appels au standard au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous pouvez envoyer vos SMS au 739 21 précédé du mot nuit. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de l'émission ainsi que par mail à l'adresse libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, Yann, moi je suis à votre service. La libre antenne de ce samedi soir sur Europe 1, c'est tout de suite.
Europe 1, la libre antenne.
Valérie Darmon.
Bonsoir Antonin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 pour nous parler de quoi ? Dites-moi.
Eh ben, j'ai contacté Europe 1 pour leur parler un peu de mon expérience en tant que Français né en France et qui est parti au Canada quand il était quand même assez jeune et qui vient de revenir en France il y a un mois et demi.
Ah, alors, vous êtes parti.
Après 20 ans.
Ah, ben voilà, c'était ma question. Vous êtes parti à quel âge et vous êtes revenu à quel âge ?
Donc je suis parti quand j'étais, entre 19 ans, et là je viens de revenir et j'ai 40 ans.
Alors qu'est-ce qui nous vaut votre retour sur le territoire français ?
Je dirais l'Europe. L'Europe me manquait énormément. L'Europe, oui, parce que malgré tout, l'Europe, c'est quand même un continent qui est chargé d'histoire, avec beaucoup de différentes cultures. Et je dirais que c'est ces cultures, cette histoire, on va dire l'art aussi, parce que je suis dans le milieu artistique. Donc l'art qu'on a depuis des années et des années en Europe.
Ouais.
Exactement, exactement. Donc ça m'a manqué. La famille également, hein, c'est le gros, c'est le manque numéro un. Donc la famille, revenir voir les racines, etc. Et puis on va se l'avouer également, la nourriture.
Ah.
La nourriture. La nourriture qui manquait vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Donc le vieux continent contre le nouveau, évidemment. La météo, voilà. Vous n'en parlez pas parce que le Canada, quand même, c'est un petit peu dur, hein climat.
Le Canada, c'est quand même assez dur. Oui, je dirais que pour un nouveau Français qui s'en va au Canada, c'est sûr que les premières années sont quand même assez rudes. Hein. C'est un hiver qui est quand même assez brutal. On va avoisiner les moins 35 à moins 40 dans les régions de Québec. Moi, je sais que j'ai habité 11 ans ou 12 ans à Montréal et je suis parti après du côté anglophone dans les Rocheuses à Calgary en Alberta. Donc, c'est la province qui est juste au-dessus du Montana. Et là, pareil, on pouvait voir des températures à moins 40 de temps en temps, quoi.
Après, c'est un froid sec, hein. C'est pas le même froid qu'en France, hein, où il y a plus d'humidité, etc. Bon, nous, c'est rare qu'on descende à ces valeurs-là, même en montagne, hein, de toute façon. Mais c'est un froid sec, le Canada, donc c'est différent aussi.
C'est différent, mais c'est très froid quand même. C'est très très froid.
Oui. Après, on vit sous terre à Montréal. Hein. Moi aussi, j'ai été immigrante au Canada dans une première vie. Donc, je connais bien et j'adore ce pays. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie là-bas quand vous aviez 25 ans, Antonin ?
Alors, pourquoi je suis partie là-bas ? Je suis partie quand j'avais 19 ans. Pas 25 ans, je suis parti quand j'avais 19 ans parce que je suis je suis quelqu'un qui est physiquement reconnaissable par rapport à son style. Je suis fortement tatoué parce qu'à la base je suis tatoueur, donc je suis quand même assez tatoué, tout le corps, on va dire, hein, voilà, pour faire un cours. Mm-hmm. Et donc quand je suis parti, j'avais 19 ans, j'étais déjà quand même beaucoup tatoué à l'époque. Et bon, à l'époque, en France, quand on était tatoué comme moi, c'est-à-dire les mains, les doigts, le cou, partout, on rentrait dans la catégorie un peu paria à l'époque. Hein, on était un peu marginalisé. Donc, on était un peu... grosso modo, on était un peu des rejetés de la société. Hein, je l'ai vu parce que malgré mes tatouages, je me présentais à différents postes pour travailler et on me fermait la porte au nez directement en me disant non, on fera rien de toi. Ils voulaient rien savoir de moi, ils voulaient pas voir mes motivations. Pourtant, j'étais quelqu'un comme tout le monde. Et on m'a rejeté parce que j'ai été tatoué, voilà. Donc j'ai dit moi j'ai plus rien à faire ici. À chaque fois j'essaye d'ouvrir la porte, de rentrer par une porte pour pouvoir m'en sortir. On me la ferme, on me la ferme au nez. J'ai contacté l'ambassade américaine à Paris pour pouvoir essayer d'aller immigrer aux États-Unis. Mon anglais était quand même médiocre, donc c'était pas possible pour moi, donc j'étais un peu découragé. Et après, je savais que Québec habitait à 6 heures de New York, donc je me suis dit, ça parle français là-bas, lance-toi. Et je me suis lancé, ça a été des gros papiers, des dossiers à faire. J'ai fini par avoir un petit visa au début. Je suis arrivé au Canada, à Montréal, et puis ainsi de suite. Je me suis bougé pour pouvoir essayer de faire des visas. Et avec beaucoup d'embûches, j'ai réussi par obtenir au final ma citoyenneté canadienne.
Oui, et puis au départ, je me souviens, en tout cas, c'était une question de points aussi pour partir... au Canada. Quand on voulait immigrer au Canada, il y avait des points. Quand on était français, on en avait plus. Quand on était jeune et avec une possibilité de faire des enfants, on en avait plus. Quand on avait certains métiers dont ils avaient besoin, on en avait plus. Et petit à petit, on pouvait prétendre à l'immigration au Canada. Alors qu'aux États-Unis, c'est toujours de toute façon plus difficile avec la green card, hein, de toutes les manières, sauf statut particulier.
C'est sûr. Moi, maintenant, je suis quand même assez chanceux parce que, ayant obtenu ma citoyenneté canadienne, je peux aller habiter 6 mois par année aux États-Unis facilement maintenant. Donc, j'ai quand même cette petite chance au final. Mais oui, c'est vrai, comme vous dites, au début, c'était beaucoup. Il y avait un barème de points pour pouvoir obtenir certains papiers, ça c'est vrai. Maintenant, malheureusement, en 2025, on va se l'avouer, c'est fini tout ça. Je vois énormément de Français qui espèrent venir immigrer au Canada. Et quand ils arrivent au pays, puis qu'ils voient qu'il y a certains papiers à obtenir pour pouvoir avoir cette résidence permanente, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, c'est fini, quoi. C'est fini. Ça ne se passe plus comme avant.
Le tatouage, vous êtes tombé dedans comment ? Et pourquoi ?
Je suis né d'un père qui était artiste, donc qui était sculpteur, peintre, dessinateur, également mon grand-père. On va dire que ma jeunesse, elle était plutôt rock'n'roll, comme peut-être beaucoup de jeunes. Où j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Et je me suis jamais intéressé à ça parce qu'on va dire que ma tête était ailleurs. Et je sais pas, un jour ça m'est tapé dans le coin de la tête et j'ai focusé là-dessus, j'ai une rage d'art et j'ai voulu absolument me mettre à dessiner, à peindre. Puis il y a pas que ça en fait, je me suis intéressé à la photographie, à tenir les caméras, faire des vidéos. Donc en fait, c'est à peu près L'art visuel comme la photographie, la vidéo, la peinture, le dessin, le tatouage, en fait c'est un tout. Et oui, je me suis intéressé à ça et c'est arrivé du jour au lendemain et on va dire que c'était peut-être inné en moi et puis ça s'est développé et en fait compte, ça a porté ses fruits au long de ma carrière, quoi, tout au long de ma carrière.
Et votre corps est devenu un support finalement, un médium.
Oui, voilà, en fait, oui, voilà, c'est ça, je me suis tatoué parce que je suis complètement tombé dedans, quoi. Et puis j'ai beaucoup aimé l'art corporel, la body modification. Alors attention, quand je dis body modification, c'est juste par rapport au tatouage. Je n'ai pas de piercing ou j'ai pas, comme on peut voir maintenant, des eyeballs, tout ce qui est des tatous dans les yeux ou des piercings ou peu importe. Moi, je reste simplement dans le tatouage et j'en ai même plus sur le visage. J'ai dû enlever mes tatouages sur le visage par rapport au Covid et à certaines autres formation que j'ai voulu acquérir. Donc, j'ai enlevé les tatouages sur le visage et j'ai quand même le corps tatoué.
Et alors, au Canada, ça n'a pas posé de problème. En France, ça vous met en colère qu'en France, on ne vous recrute jamais à cause des tatouages ?
Alors, le problème, c'est que la France, elle a encore cet esprit un peu vieillot. Alors, ça s'est quand même sacrément arrangé. À ce que je peux voir depuis un mois et demi que je suis de retour en France, beaucoup de personnes se montrent un peu plus avec des tatouages. Ça, c'est formidable. Après, je pousse pas les gens à se faire tatouer. Hein. Je veux dire, c'est propre à chacun. Mais c'est sûr que à l'époque. Moi, on me fermait les portes en France, et puis c'est sûr qu'au Canada, ils ont une certaine mentalité, en fait. Au Canada, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ils ont une mentalité qui est bien plus ouverte, quoi, par rapport à ça. Le problème, c'est que c'est ça. Au Canada et aux États-Unis, si par exemple, vous venez et que vous voulez absolument apprendre un métier et vous mettre à fond dedans, montrer que vous êtes motivé, on va vous ouvrir la porte, on va vous donner votre chance et au final vous allez finir par travailler, apprendre et à faire ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est qu'en France, c'est toujours basé sur des papiers, école, papier, diplôme, certificat, papier, pour au final voir des personnes qui n'ont rien, quoi. Non, après la finalité, quoi, ils n'ont rien.
Et 25 ans plus tard, puisque vous venez de rentrer, c'est toujours la même chose, oui. Ou est-ce que vous trouvez que les mentalités... Alors, je ne parle pas des tatouages, où là, bien sûr, les mentalités ont évolué.
Mm-hmm. Mais ils ont quand même évolué.
Oui, pour le recrutement, par exemple. Est-ce que c'est toujours la même chose ?
Alors, je vais vous expliquer. Le tatouage, au jour d'aujourd'hui, je dois l'avouer, c'est un métier qui est en train de mourir. Alors oui, les gens, peut-être qu'ils ont entendu dans la rue que les tatoueurs étaient bookés, mais ce n'est pas vrai. Je regardais un article ce matin écrit par Tintin, un tatoueur connu à Paris, qui justement était en train de se plaindre par rapport à ça.
Très médiatisé, Tintin.
Exact. Exactement. Donc c'est quand même une pointure dans le milieu du tatouage en France, on doit l'avouer quand même. Ça a été un des premiers blancs caucasiens qui a eu le droit de tatouer des yakuza au Japon. Hein. C'est quand même énorme, on va se l'avouer. Là. Et cette personne, justement, Tintin, il disait la même chose que moi. C'est un métier qui est malheureusement en train de mourir parce que pendant le Covid, tout le monde a voulu se jeter sur des métiers comme barbier, poseuse de cils, poseuse d'ongles, tatoueur, des métiers qui ne requièrent pas un minimum de diplôme, en fait. C'est des métiers qu'on peut faire quand on est autodidacte. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se sont lancées dans le tatouage, qui n'ont aucune base de dessin, aucune base en art tout court, et donc ils ont acheté des machines sur les sites comme Amazon, des machines à 50 balles, et ils vont se mettre l'étiquette tatoueur parce qu'ils voulaient absolument faire de l'argent. Et je trouve que c'est dommage parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce métier est en train de mourir en France.
Et casser les prix d'ailleurs. Hein. Casser les prix, et il n'y a pas forcément les normes en plus d'hygiène. Hein.
Non, exactement. Exactement.
Donc, casser les prix, aucune norme d'hygiène. Il faut faire attention, oui. Faut le dire quand même.
Donc résultat, moi je suis... Résultat, je suis de retour en France. Je vous avouerai que maintenant j'essaye... J'essaye simplement de rentrer dans les métiers de l'audiovisuel ou les métiers théâtrales, parce que bon, on se connaît pas, vous et moi, mais je suis un peu le clown de soirée. Je suis ami avec des humoristes qui font déjà du stand-up et je suis déjà invité à aller faire du stand-up. Donc je suis fortement content par rapport à ça. Et là, je me vois commencer à faire mes premières scènes bientôt, là, au mois de juillet. Mais oui, ça reste encore
dur. Vous allez les faire où, Antonin ? Dites-nous, puisqu'on est sur l'antenne d'Europe 1, après tout. Pourquoi pas ?
Au début, je vais commencer dans la région où j'habite, en Charente-Maritime. Donc voilà, La Rochelle. Et après, si par exemple le public est réceptif à mon style d'humour, je vais essayer d'aller naviguer à droite à gauche en France.
Est-ce que vous avez vécu de ça au Canada ou c'est parce que vous arrivez en France que vous vous dites voilà, deuxième partie de vie ou troisième partie de vie, je me lance dans le stand-up?
Non, alors j'ai pas vécu ça au Canada, mais j'ai été invité à faire, à l'époque, quand ça existait encore, j'ai été invité plusieurs fois à aller faire l'école du rire au Canada. Il y a une grande école qui était connue, bon, maintenant elle a fermé, je pense. Mais j'ai été invité plusieurs fois à y aller. Et je sais pas, j'étais tellement à fond dans le métier de tatoueur que j'avais une pensée qui disait oui, vas-y, fais-le, il faut que tu fonces, c'est ton heure, c'est à toi de le faire. En plus de ça, je ne vous compte pas le nombre de personnes au Canada et au Québec qui m'ont dit 50 000 fois allez, lance-toi, il faut y aller, il faut que tu le fasses, t'as cette chose en toi qu'il faut que t'ailles exploiter. Et non, j'étais enfermé au niveau du milieu du tatouage parce que je naviguais beaucoup aux États-Unis, au Canada, je faisais des conventions, j'avais envie de me faire connaître en tant que tatoueur. Et maintenant que je suis retourné en France, j'ai commencé à contacter des radios, des télés, enfin la télé et tout ça pour essayer de commencer à vouloir travailler dans l'audiovisuel et puis apprendre le métier sur le tas parce que justement c'est là où je voulais en venir. Je me suis vu proposer aller faire des écoles d'audiovisuel ici en France, mais c'est des écoles qui vont vous coûter au bout de 3 ans pour avoir une licence ou un BTS au bout de 2 ans, c'est des écoles qui vont vous coûter pas loin de 30 000 euros à 40 000 euros quoi. Et quand vous regardez les statistiques, la plupart de ces personnes-là, quand ils sortent de ces écoles-là, ils ont les deux mains dans les poches et ils attendent.
Et Antonin, pourquoi, puisque vous avez créé toute une vie au Canada en 25 ans, c'est un pays où on peut encore entreprendre aujourd'hui, même si on passe pas par les voies classiques, vous venez de nous l'expliquer. Pourquoi vous n'avez pas tenté votre chance, comme tous ces gens vous l'ont suggéré quand vous étiez au Canada? Pourquoi rentrer en France? Alors vous nous l'avez dit en début d'entretien, bien sûr, pour la famille, mais le Canada, c'est pas non plus si loin que ça. On peut faire des allers-retours, vous l'avez fait pendant 25 ans, votre famille j'imagine également, le climat on s'adapte, c'est une prise de risque de votre part de tenter une nouvelle carrière en France avec ce que vous venez de nous exprimer de la France.
Pour être honnête avec vous Valérie, le Canada ce n'est plus ce que c'était, je ne sais pas si vous y êtes retourné entre temps, le Canada ce n'est plus ce que c'était, moi j'ai fait quand même 2 décennies là-bas. Après, je suis à l'antenne, mais politiquement parlant, je veux pas trop en parler, mais c'est plus ce que c'était. Je vous avouerai que c'est en train de sombrer.
Ah, là aussi.
Oui. Oh, vraiment. C'est une catastrophe. Et moi, je le dis parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec des personnes qui sont d'origine française et qui voulait partir au Canada. Et donc, ils pensent encore en 2025 que le Canada, c'est l'Eldorado. Et là, je les regarde et je leur dis, mais vous savez même pas de quoi vous parlez. Il faut y aller, il faut le voir. Il ne faut pas y aller juste en vacances 2-3 semaines et dire, oh, c'est génial, je vais aller m'installer là-bas. Non. Tout ce qu'on voit à la télé en France avec venez au Canada, c'est super génial, c'est super beau, etc. Oui, c'est beau, on va se l'avouer, les rocheuses, les paysages, c'est magnifique.
Même les Laurentides, même le Saint-Laurent, même les baleines, il y a beaucoup de choses.
C'est beau.
C'est la grande nature.
Ah, c'est la grande nature. Là, on est dans ce qu'on appelle le wildlife, c'est ça quoi, c'est vraiment beau, mais je dois être totalement sincère et transparent, politiquement parlant c'est une catastrophe, c'est une réelle catastrophe, je dois l'avouer.
Mais vous laissez quand même toute une vie, 25 ans, vous quittez la France, vous avez 19 ans, vous créez votre vie là-bas, vous partez de rien quand vous arrivez là-bas.
Moi, je suis parti de rien, ouais, j'avais 3 600 $ en poche, quand je me rappelle quand j'ai atterri à l'aéroport de Montréal il y a 20 ans de ça, j'avais 3 600 $ en poche, aucun diplôme, j'ai été chanceux parce que j'ai réussi à avoir mes papiers à ce moment-là, parce que maintenant, il faut absolument montrer patte blanche et avoir des diplômes et être intéressant pour le gouvernement canadien pour avoir
des possibilités
de rester vivre, ouais. Sinon, ils vous prendront pas, vous êtes juste un pion parmi tant d'autres maintenant. Mais moi, à cette époque-là, j'avais un peu cette chance-là, oui, on va se l'avouer. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai quitté toute une vie, mais au final, ce que je m'aperçois, c'est mieux maintenant, en 2025, de retourner en Europe que de rester au Canada. Là, je vais peut-être en étonner plus d'un qui sont en train de nous écouter en ce moment, mais c'est la vérité.
Alors on a Anne au 739-21 justement qui met un smile et qui sourit et qui dit « Attention, la France n'est plus ce que c'était non plus ». Vous l'avez constaté ou
sais.
Pas
Bah, la France n'est plus ce que c'était, oui, non, alors bien entendu, ça, il n'y a pas de problème, ça je l'ai vu. Après, vous savez, hein, comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte chez les autres non plus, hein. Je veux dire chez le voisin, quoi. Donc, ou je me trompe. Je connais plus trop ce dicton parce que je parle tellement en anglais.
L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est ça.
Ouais, c'est ça, parce que je parle souvent en anglais maintenant que je me perds un peu sur mes mots. Mais oui, non, c'est vrai que c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, bien entendu. Mais moi, en tant que citoyen canadien comme citoyen français, je suis retourné en Europe depuis un mois et demi. Les Français, bon, je parle de la France parce que je suis en France. Les Français devraient se compter chanceux d'être en France. Vraiment, énormément, parce qu'ils ont des choses en France que les Canadiens et les Américains n'ont pas. Comme par exemple, ils ont la sécurité sociale, le système de santé qui est énormément meilleur.
L'école
publique, oui aussi également, mais en même temps la nourriture. La nourriture. Le prix de la nourriture au Canada, c'est une catastrophe. J'envoyais des photos à ma mère où je dépensais 50 euros de courses là-bas et j'avais 4 items sur la table. Ma mère était folle de voir ça. Elle dit « J'ai jamais vu ça de ma vie. » C'est rendu n'importe quoi. N'importe quoi. Les loyers, des loyers exorbitants, parce que j'ai plus d'un Français, parce que je fais du sport. Et au sport, mes collègues... Bah, ils me disaient qu'ils étaient intéressés d'aller voir comment c'était le Canada et tout ça, puis qu'ils me disaient toujours la même chose. La même chose était « Oh, mais vous faites des salaires à 6 000 $ par mois. » À chaque fois, j'entendais ça. « Vous faites des salaires entre 5 et 6 000 $ par mois. » Alors oui, c'est des salaires entre 5 et 6 000 $ par mois qui sont bruts. Après net, vous allez tomber à 4 500 $. Donc là, les gens me disaient « Ouais, mais 4 500 $, c'est bien mieux que la France. » Je fais « Attends, j'ai pas fini. » Au jour d'aujourd'hui, avec 4 500 $, c'est une vie où tu vas survivre dans le mois. Avec 4 500 $ au Canada. Parce qu'on est d'accord que pour avoir un loyer, on va dire, potable, c'est-à-dire avoir un appartement qui a genre une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain, on est déjà dans les 1 500. C'est ça, deux pièces. On est déjà dans les 1 500 $. Sans l'électricité, l'eau, Internet et tout ce qui est utility à côté. Donc, on
là,
est
vous
déjà
parlez, là, vous parlez des loyers de Montréal ou de Québec, etc. Vous ne parlez pas des petites villes autour ou un peu éloignées.
Montréal, oh, bah, ça commence à monter, là, ça y est, c'est parti. Hein. Ah oui, bah, Sherbrooke, toutes ces petites villes qui sont à côté de Montréal et tout ça, ils ont vu l'immobilier exploser, là, les locations exploser.
Et vous ne vous êtes pas dit, Antonin, je vais partir ailleurs dans le monde, par exemple? Parce que quand on commence comme ça sa vie à 19 ans, à l'étranger, ensuite le Canada, les États-Unis, c'est tout près, donc j'imagine que vous avez bougé aussi, comme le font d'ailleurs tous les Canadiens, hein, ils partent aussi au soleil l'hiver, enfin bon. Vous ne vous êtes pas dit, je vais partir explorer d'autres terres? C'est important l'appel de la France à ce moment-là, de se dire, je reviens chez moi?
Bah en fait, l'appel de la France, oui et non, c'est plutôt l'appel de l'Europe, parce que avant de partir au Canada, comme je vous ai expliqué au début, j'ai une vie quand même qui était un peu rock'n'roll, et on va dire que moi, je suis quand même parti assez tôt de chez ma maman, vers 17 ans ou 17 ans et demi, et puis j'ai eu l'opportunité d'aller à droite, à gauche en Europe, parce que j'étais un peu le baroudeur, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller en Europe. Donc je suis allé, bon, j'ai vu la France, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, j'ai vu plein d'autres pays, je suis allé aussi dans les Caraïbes, en République Dominicaine, les États-Unis, le Canada, bon ben j'en ai fait quand même du pays, mais je me suis dit non, j'ai envie de retourner en France parce que je veux, comme je vous ai dit, je veux revoir cette culture française, cette culture qui est riche, ces cultures si différentes mais qui sont si regroupées ensemble sur ce continent et donc oui, ça manque énormément parce que c'est sûr que les États-Unis, le Canada, c'est bien, mais c'est souvent la même chose en fait. C'est vous savez, vous allez à Montréal, vous allez à Toronto, vous allez à Calgary, vous allez à Vancouver, vous allez à New York, vous allez à Miami, vous allez partout et vous verrez, c'est toujours la même chose en fait. C'est des buildings, des cubes, et c'est tout, quoi. Et puis, pas plus, pas moins, quoi.
Nous, on a le charme de l'ancien. En tout cas, vous avez ramené un petit accent québécois, hein, quand même.
Ah bah, après 20 ans, c'est sûr.
Un petit peu.
Après 20 ans, après.
C'est fort agréable, aussi.
Bah, merci.
Antonin, alors, puisque vous faites du stand-up maintenant, est-ce que je peux oser vous demander de nous...
Je vais commencer le stand-up.
Oui. Alors, est-ce que je peux vous demander, sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, nous improviser un petit sketch, nous faire rire, nous faire sourire? Ça nous fait du bien dans ce monde un peu d'ultra-violence et difficile avec cette actualité lourde. Je vous laisse la parole 2 petites minutes, par exemple, ou 3 petites minutes, jusqu'au flash de Mal-Laurent. Qu'en dites-vous?
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un humour qui est quand même assez trash et assez brutal et assez direct. Donc, je ne sais pas si je peux passer sur Europe 1. Et en même temps, c'est de l'humour qui est plus basé sur des anecdotes. Hein. Je ne veux pas raconter une blague. C'est vraiment basé sur des anecdotes.
Alors, racontez-nous une anecdote.
Mais c'est ça, je peux raconter une anecdote, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même assez trash, donc je ne sais pas si je peux me permettre de dire des choses pareilles.
Qu'est-ce qu'on appelle trash d'un côté de l'Atlantique et de l'autre? Tant que ce n'est pas grossier, on n'a pas de soucis, nous. Et que c'est dans le respect d'autrui, évidemment. Ou de l'autodérision, vous avez le droit à l'autodérision autant que vous voulez, puisque Europe 1 est une antenne libre.
C'est un peu grossier quand même, je dois l'avouer, mais bon, je ne sais pas si je peux me permettre, quoi.
Bon, écoutez, on tente, et si c'est trop, je vous arrête.
Bah, l'anecdote, c'est simple. Bon, bah, moi, je suis tatoueur. J'étais en train de tatouer un client. Donc, ça, c'est un peu, je vous explique. L'anecdote, c'est que j'étais en train de tatouer un client. Et au bout d'un moment, quand j'étais focus sur avec mon client, bah, j'étais tranquille, en train de le tatouer. Et je vois une femme qui rentre au shop, avec son enfant. Et là, d'un coup, la femme, elle me dit, monsieur, est-ce que je pourrais utiliser, vos toilettes pour mon fils? Bah, je lui dis, écoutez, madame, il n'y a pas de problème, hein. On n'est pas une prison ici. Et là, elle me dit « Ok, merci bien ». Je dis « Parfait ». Donc là, je lui montre la direction des toilettes. La femme s'en va tranquillement aux toilettes. Et elle attend son fils qui rentre dans les toilettes. Et moi, j'ai toujours un œil partout au shop. Donc je regarde et je vois le petit qui rentre dans les toilettes et qui reste 1 minute et qui ressort. Et là, au bout d'un moment, je vois la femme, cette maman, qui rentre dans mes toilettes, mais qui rentre en mode... furtif, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, j'étais, qu'est-ce qui se passe? Et je la vois rentrer dans les toilettes et elle reste un bon 4 minutes. Et là, je la vois ressortir des toilettes et elle vient vers moi un peu en panique. Elle me dit, oui, bonjour, monsieur, il faut absolument que vous veniez, mon fils a fait des dégâts dans les toilettes. Et donc je lui dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me lève et puis j'ouvre la porte. Et là, je vous avouerai que je tombe nez à nez avec un étron comme j'ai jamais vu au fond des toilettes.
Ouais.
Et donc, c'était vraiment chaud ce que j'ai vu. On aurait dit une demi-baguette au fond des toilettes. C'était un monument historique. Et quelque chose comme ça, fallait le mettre plutôt dans un musée, quoi. Il fallait pas le laisser au fond des toilettes, je vous avouerai. Et en fait, bah, j'ai réalisé que la femme avait carrément vendu son fils, sachant que c'était elle qui l'avait fait, quoi. Et bon, elle avait une honte, mais elle a vendu l'enfant. Et puis moi, je lui dis à la femme, comment un enfant peut sortir une chose pareille si ça fait la même taille que votre fils, quoi. Ça fait aucun sens. Et donc, bah.
Et comment elle a réagi ? Elle a fini par reconnaître ou pas ?
Elle l'a pas reconnu, donc j'ai pris de peine à essayer de nettoyer les dégâts. Après beaucoup de litres d'eau, ça a fini par passer. Au bout d'un moment, j'entendais cette chose taper dans la canalisation. J'ai cru que la canalisation allait péter au chop. Mm-hmm. Donc j'ai commencé à prendre panique. Et moi, je lui ai dit à la femme, je lui ai dit, mais moi, un truc pareil. Je lui dis, mais moi, je finis chez le kiné avec des séances de psychologie, quoi, de psychologue.
C'est une histoire vraie ?
C'est une histoire vraie.
Ah. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Antonin, ce sera le mot de la fin ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Il n'y a aucun problème. En tout cas, vous passez en stand-up pour nous raconter vos anecdotes et vos histoires vraies en Charente-Maritime, à La Rochelle cet été. C'est ça ?
Et ça sera, c'est ça. Puis ça sera mieux tourné, hein, parce que là, je suis en antenne avec vous.
J'imagine donc, bien, et vous êtes en plein impro. Merci beaucoup, Antonin. Merci beaucoup. Bon retour en France. Bon retour chez vous, en tout cas. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et chers amis, notez que la semaine prochaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1. Une semaine exceptionnelle. Venez rencontrer vos animateurs. Découvrez comment les journalistes travaillent, préparent l'information libre que vous entendez tous les jours et tout le temps. Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses et célébrez les succès d'Europe 1. Entrez donc dans la grande famille Europe 1. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlov.